le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement.
Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur.
Soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Gloire
à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un vivra éternellement, le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux : Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Et Jésus leur dit alors : Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Oui, oui, je vais prendre le micro portable finalement.
Vous pouvez vous asseoir. Chers enfants, ça y est, nous y voilà. Dans quelques instants, vous allez vous joindre à nous. Vous allez recevoir ce qu'on appelle le pain de vie. Vous allez recevoir la nourriture la plus dense, la plus forte qui puisse être donnée à votre âme. Pour ceux qui vont être baptisés, vous allez recevoir Dieu dans votre cœur. Vous allez recevoir sa présence, toute sa divinité, tout son être. Et j'aimerais commencer en vous remerciant. Parce que je sais que la joie qui est la mienne, celle de vous donner Jésus, n'est rien en comparaison de la joie que je donne à Dieu. Grâce aux pauvres prêtres que nous sommes, Dieu va avoir ce bonheur immense de pouvoir venir dans votre cœur. Et ce bonheur, il l'attend depuis toute éternité. Comme il vous aime infiniment, Je sais qu'il est heureux de pouvoir se faire aujourd'hui tout proche de vous. Merci donc, cher jeune, de l'accueillir avec le plus de recueillement, avec le plus de sérieux, avec le plus d'amour dont votre cœur est possible. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, malheureusement, un grand nombre de catholiques ne savent plus très bien ce qu'est une messe, ne savent plus très bien ce qu'est l'Eucharistie. Comme la foule des Juifs dans l'évangile que nous avons entendu, nous ne comprenons plus vraiment le sens des paroles que nous adresse le Christ. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Telle est la question que posent les Juifs. Nous ne comprenons plus très bien non plus la réponse que Jésus leur donne, qui nous semble parfois un peu obscure. Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Alors, chers enfants, pour nous aider peut-être à comprendre un peu mieux, à nous approcher un peu mieux de ce mystère de l'Eucharistie, pour nous aider à comprendre un peu mieux le sens des paroles que nous avons entendues aujourd'hui, j'aimerais vous poser quelques questions. Alors attention, soyez attentifs. Quand est-ce que nous partageons ensemble une nourriture? Quand est-ce que nous partageons ensemble de la nourriture? Ça se passe à peu près 3 fois par jour, à part si parmi vous il y a des hobbits qui mangent un peu plus. Combien, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'on fait le matin, le midi, le soir? On partage quoi? Merci. Le repas. Mais il y a un jour de la semaine où l'on prend plus que 3 repas. Alors je ne vous parle pas de la collation, encore une fois, ou du goûter. Il y a un jour dans la semaine où on prend 4 repas. C'est quel jour? Bien joué. Le dimanche. Car effectivement, vous avez raison, la messe est un repas au cours duquel on reçoit, comme l'a dit le Christ aujourd'hui, la vraie nourriture, la vraie boisson, puisque c'est Jésus lui-même qui se donne à manger pour par nous. Quelle est la condition ? Chers enfants, pour venir à un repas, quand est-ce qu'on vient à un repas? Quand est-ce que vous attendez le repas? C'est pas grave, parce que si vous le dites, même si vous vous trompez, je le répète pas dans le micro, donc les autres, ils n'entendent pas. Quand est-ce? Eh oui, quand on a faim. On vient à un repas quand on a faim. C'est la première raison. Chers enfants, mais je pose cette question aussi à vous derrière. Avez-vous faim? Désirez-vous recevoir cette nourriture venue du ciel? Avez-vous faim de cette vie, de cette paix que Jésus nous apporte en se donnant pour nous sur cet autel en nourriture? C'est une question qu'il faut pouvoir se poser. Pour les enfants, je suis à peu près sûr de la réponse. Comment est-ce que je viendrai communier? Est-ce que c'est parce qu'au fond de moi, au fond de mon cœur, je reconnais qu'il y a un manque. Est-ce que je reconnais qu'il y a un besoin, qu'il y a une faim? Ou est-ce que mon cœur est déjà plein? Est-ce que mon cœur est déjà rassasié de toute autre chose? Mais vous voyez, le repas, c'est pas uniquement pour nous nourrir. Le repas a une place beaucoup plus importante, surtout chez nous en France, que la simple satisfaction de notre appétit. Le repas, c'est beaucoup plus qu'un simple apport nutritif. J'en veux pour preuve que ce sera certainement pour chacun d'entre nous la préoccupation principale qui suivra cette messe et qui occupera peut-être une bonne partie de notre après-midi. Bien sûr, même si l'apport d'énergie est le rôle principal du repas, ce n'est pas l'unique. Sinon, on pourrait bien imaginer que pour simplifier ce rituel, ou pour gagner du temps, après la messe, chacun de nous consomme une petite pilule contenant tous les apports en protéines dont notre corps a besoin. Alors je suis sûr, les enfants, imaginez un petit peu que si vos parents faisaient ça, qu'ils donnaient une petite poche d'alimentation à tous vos invités, à tous leurs invités, pour éviter un repas qui serait trop long, vous pourriez leur reprocher à juste titre d'avoir gâché une partie de la fête. C'est donc que le repas est plus que la simple satisfaction des besoins naturels que nous avons, que notre corps a de se nourrir. Il permet de satisfaire un besoin de l'être humain, un besoin certes moins visible et moins évident, mais non moins important. Le repas, c'est un instant de convivialité, un lieu où nous aimons nous retrouver. La table est le lieu qui réunit la famille et lui apporte non seulement les nutriments organiques dont chacun a besoin, mais aussi ce que l'on pourrait appeler les aliments affectifs nécessaires à notre équilibre psychique. Le repas partagé est un lieu où se soude l'unité de la famille, où se soude l'unité des convives. Alors si je me livre à une pareille analyse sur l'importance de la table, ce n'est pas par simple plaisir de faire de la sociologie. C'est parce que, comme je vous le disais, la messe est un repas. Un repas auquel vous allez participer d'une manière plus active pour la première fois. Et ce n'est pas un hasard si Jésus a voulu nous transmettre ce qu'il avait de plus cher, son bien le plus précieux, au cours d'un repas. Voyez-vous, Dieu, dans sa grande tendresse, a voulu satisfaire en un seul et unique don, tous les besoins de l'homme. Besoins physiques, psychologiques et surtout, surtout, le besoin qui est le plus oublié aujourd'hui, malheureusement, notre besoin spirituel. Il vient répondre à notre faim intime, à notre faim la plus profonde, en se donnant lui-même. Il vient répondre, car de même que la nourriture que nous partageons trois fois par jour au cours des repas est vitale pour notre organisme, la communion au corps du Christ, qui nous rassemble une fois par semaine, est tout aussi vitale pour notre âme. Alors je vous en supplie, à vous qui m'écoutez aujourd'hui, que la première communion de votre enfant ne soit pas la dernière. Son âme comme la vôtre, a besoin de cette nourriture sans laquelle elle dépérit, sans laquelle elle s'atrophie. Elle a besoin de cette vraie nourriture qui seule peut nous apprendre à aimer vraiment, qui seule peut donner à notre âme, à notre cœur, les apports dont elle a besoin. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. La messe est aussi ce repas qui nous rassemble et qui nous unit entre nous. Le Christ, en se faisant nourriture pour nous, est notre communion. Il est celui qui nous rassemble aujourd'hui. Et si je joue un peu sur les mots, il est notre commune union. Et plus ce que nous mettons en commun a du prix, plus l'unité qui en découle devient forte. Au cours de la messe, nous partageons ce qui existe de plus beau et de plus grand. Nous prenons part et nous recevons le Créateur de toutes choses dans notre âme. Nous recevons Dieu lui-même. Aussi, par cette communion s'établit un pont entre chacun de nous. Cette communion nous fait entrer vraiment dans une seule et même famille, celle que rejoignent les nouveaux baptisés, cette famille des enfants de Dieu. L'unité ainsi créée est telle que, comme nous le dit saint Paul dans la deuxième lecture, nous ne formons plus qu'un seul corps. Ce n'est pas des mots. Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps. La multitude que nous sommes dans cette église, mais bien plus largement, la multitude des hommes qui sont en train, et à ce moment-là, à Notre-Dame en Vaud, d'autres personnes participent en ce moment à la messe et vont prendre part à cette même communion, à ce même pain, vont rentrer dans ce même corps que nous formons. Alors, entrons tous ensemble. Vous entrez, entrons dans cette famille. Et pour finir, j'aimerais vous citer le patron de tous les prêtres, le curé d'Ars, qui parlait un petit peu de ce grand sacrement de l'Eucharistie. Et voici ce qu'il disait. Celui qui communie se perd en Dieu comme une goutte d'eau dans l'océan. On ne peut plus les séparer. Il y a de quoi, si l'on y pensait, se perdre pour l'éternité dans cet abîme d'amour. Il n'y a rien de si grand que l'Eucharistie. Mettez toutes les bonnes œuvres du monde contre une communion bien faite. Ce sera comme un grain de poussière devant une montagne. Mettez toutes les bonnes œuvres du monde devant une communion bien faite. C'est comme un grain de poussière devant une montagne. Allez donc à la communion, chers enfants. Allez à Jésus avec amour et confiance. Allez vivre de lui afin de vivre pour lui. Toutes les prières de la messe sont une préparation à la communion. Toute la vie d'un chrétien doit être une préparation à cette grande action de grâce qui ne s'épanouira définitivement et totalement que lorsque nous paraîtrons face à Dieu. Alors, puissions-nous ensemble être incorporés à ce même corps que nous allons partager. Puissions-nous trouver cette unité profonde dans cette nourriture que nous allons recevoir. Puissions-nous, en venant communier, chers amis, réveiller en nous cette faim pour que nous puissions recevoir Dieu avec tout l'honneur qui lui est dû, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.